France Info.
France Info.
Une idée pour votre week-end de lecture, mais attention, c'est un gros livre, un très très gros livre. C'est Le Voyage au bout de la nuit de Céline, mais c'est la version manuscrite. Bonjour Jessica Nelson.
Bonjour.
Vous êtes éditrice et cofondatrice des éditions des Saint-Pères qui ont réalisé cette œuvre d'art, j'ose dire presque.
Ah oui, vous pouvez le
parce
dire.
Parce que c'est un coffret quasi, je ne sais pas, c'est du bois, oui.
Alors ça, c'est certains matériaux qui sont évidemment plus solides que la moyenne pour pouvoir protéger un petit peu le livre, puisqu'on utilise voilà, par exemple du papier Fédrigoni, c'est une reliure qui est faite à la main dans les ateliers de la Pléiade, et vraiment on fait en sorte que tous les éléments soient là pour faire une petite œuvre d'art.
Il pèse combien ce bouquin?
4 kilos de.
Voilà, 4 kilos de. Donc si vous l'amenez sur la plage, il faut quand même prévoir. Voilà. Non, je plaisante. Surtout pas sur la plage. C'est le manuscrit de Céline. Déjà, pourquoi un tel livre?
Parce que c'est quand même un des monuments de l'histoire littéraire. D'ailleurs, Céline le disait quand il a envoyé son manuscrit à Gaston Gallimard. Il lui écrivait, c'est du pain pour un siècle entier de littérature, et l'heureux éditeur qui le publiera aura le Goncourt. Donc il avait cette pression que ce livre-là, c'était un tournant dans l'histoire de la littérature, et c'est vrai que pour un éditeur qui publie des manuscrits, le fait que ce manuscrit-là soit disponible et qu'il est réapparu après une grande histoire dont on parlera peut-être.
Vous allez me la raconter, mais c'est ça l'intérêt.
Mais c'est vrai que voilà, pouvoir publier ce manuscrit, c'est un grand bonheur.
Juste un mot sur Céline. Donc, il publie en 32 chez De Noël. Il rate le Goncourt de peu.
Oui, oui.
Ce manuscrit, il a une écriture très serrée, très fine, beaucoup de raturage.
Oui, beaucoup de raturage.
C'est pas souple, hein. On voit que c'est travaillé.
C'est très travaillé, mais c'est justement là que réside l'intérêt. C'est-à-dire que vous voyez vraiment, ce manuscrit, il est très différent de la version publiée. Et donc, vous avez la possibilité de comprendre un petit peu quel a été le travail d'écriture de Céline sur la langue, sur le style, la ponctuation, et sur pourquoi est-ce qu'il a transformé notre rapport à la littérature avec ce texte.
Jessica Nelson, l'histoire de ce manuscrit, comment vous l'êtes procuré?
Ah, on ne se l'est pas procuré. Enfin,
oui, parce qu'il est à la BNF. Non, il est à la BNF, oui, il est sous un coffre-fort, évidemment.
Exactement.
Enfin, comment vous y avez eu accès, je veux dire.
En fait, le manuscrit donc, a disparu pendant 60 ans. Céline l'a vendu en 1943 à un marchand d'art contre un petit tableau de Renoir 10 000 francs. Et ce manuscrit est réapparu en 2001 par l'entremise d'un grand libraire parisien qui disait le détenir d'un collectionneur. Et évidemment, mise aux enchères, c'est la BNF qui a fait jouer son droit de préemption et qui a pu emporter le manuscrit. Et nous y avons eu accès grâce à maître François Gibault, qui est l'avocat de Madame Destouches, grâce aux éditions Gallimard qui ont soutenu ce projet, et puis la BNF qui était, je pense, ravie qu'on puisse valoriser une des pièces que la BNF possède.
Madame Destouches, qui est le gérante des ayants, enfin qui est ayant
droit
de...
C'est la veuve de voilà. Louis-Ferdinand Céline.
Il est format réel, sans les pages telles quelles,
absolument.
Donc c'est du A4, c'est ça?
Alors ça dépend, il y a effectivement plusieurs formats dans le livre, et nous, le format du livre final, on l'a adapté au format du manuscrit, mais c'est vrai que oui, vous avez, là, c'est la taille exacte du manuscrit tel que Céline a écrit, et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs, c'est cette démarche-là qu'on a depuis le début, c'est de proposer au lecteur une immersion complète dans l'écriture, dans les coulisses de l'écriture de l'auteur, et voilà, et c'est pour ça qu'on a cherché à reproduire ce manuscrit comme on le pouvait.
Comment le lire? Comme le roman, c'est-à-dire qu'on prend au début et on essaie de le lire jusqu'au bout, mais alors évidemment il y a les ratures, les sauts de page.
Je pense que c'est une lecture qui doit être nécessairement plus attentive au début, parce qu'il faut se familiariser avec une graphique qui n'est pas forcément attendue. Et à mon sens, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, ensuite quand vous êtes dedans, vous suivez complètement l'auteur et vous êtes vraiment à l'intérieur de ce voyage, même davantage que la lecture du texte.
C'est plus intime, au fond, on a l'impression d'être avec Céline directement.
Mais c'est ça, c'est exactement ça, on a l'impression de regarder le livre s'écrire page après page. Et c'est d'une émotion, d'une grande émotion.
Votre but c'est quoi Jessica Nelson? Cette maison des éditions des Saint-Pères, c'est pas votre coup d'essai ça, hein?
C'est pas le premier, on a publié L'écume des jours l'an dernier, par exemple, le script
Boris Vian,
de Cocteau, de La Belle et la Bête. L'objectif, c'est peut-être dans un monde un peu où on craint cette dématérialisation du livre, où on craint la numérisation des œuvres, c'est de retrouver un petit peu la magie, la première magie du rapport à la littérature et à l'écriture. Et ça, comment est-ce qu'on le fait mieux qu'en passant par le texte manuscrit, quand il existe, naturellement.
Merci Jessica Nelson.
Merci beaucoup.
Voyage au bout de la nuit, donc aux éditions des Saint-Pères pour le manuscrit. Alors peut-être pas amené sur la plage, mais à lire cet été pour les amoureux de Céline. Dans les textes courts maintenant pour vos vacances, ne manquez pas Son carnet rouge de Tatiana de Ronet, des nouvelles autour de l'adultère, inédit. Quelques-unes étaient anciennes, mais qu'elle a complètement réécrites. Et puisqu'on parle de nouvelles, Sylvain Tesson reste dans les meilleures ventes avec S'abandonner à vivre. Il vous dit ce qu'il aime dans la nouvelle.
Je crois que d'abord, la nouvelle contraint à une, par définition, à une rapidité, à une efficacité, et donc vous amène à un dégraissement du style. On peut pas s'éterniser dans une nouvelle, on doit très vite camper son décor, cerner ses personnages, les jeter dans l'intrigue, et puis conduire son fil narratif jusqu'à la chute finale. Puis la nouvelle, moi, correspond bien à mon agitation, qui est mon mode de vie.
Et vous êtes agité, vous passez 6 mois tout seul au lac Baïkal, vous allez vous emmerder un peu quand même.
Non, ben, je suis agité dans le sens où je ne tiens pas en place. Moi, je ressens la malédiction du mouvement, comme disait Bruce Chatwin, qui fait que je ne peux pas rester en place et qu'il faut absolument que je reprenne la route. Et du coup, l'écriture de nouvelles correspond bien à ma vie.
Et c'est, puis, c'est plus dur la nouvelle à écrire, peut-être, non, qu'un roman où on peut se laisser aller.
Je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai jamais écrit de roman. Je pourrais vous le demander, mais la question.
Ça vous donne pas envie.
Mais, c'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, que la nouvelle permet de bâtir des recueils qui ressemblent à l'existence. Car les existences sont des chapitrages. Nous vivons plusieurs vies dans une vie. Nous changeons, je crois beaucoup à la métamorphose des êtres. Nous changeons d'humeur, nous changeons de couleur, nous changeons de solfège intérieur. Nous ne sommes pas les mêmes selon les années où se déroulent nos existences. Eh bien, un recueil de nouvelles, c'est ça. Ça correspond au chatoiement, à la complexité de l'existence.
Dans le recueil de nouvelles S'abandonner à vivre qui vient de sortir chez Gallimard, pas mal de couples, des amants d'un jour, une Russe venue vivre avec un Français qui s'ennuie à mourir autant ici sur la Côte d'Azur que là-bas dans son fond de la Russie. Un accident qui brise la vie, autrement dit, chaque fois le sort. On ne peut rien contre son destin ?
Je ne crois pas. Je crois que nous croyons, nous sommes traversés de cette certitude que nous menons notre vie grâce à l'ambition, grâce à la vocation, grâce à la volonté, et qu'en fait nous sommes assez ballottés par les coups de l'adversité et du sort. Alors évidemment, on se console en disant que on a une prise sur notre existence, mais je crois qu'au fond, il vaut mieux essayer de s'accepter, ce qui est d'ailleurs une philosophie très slave, qui consiste à la fois à aimer la vie, à la dévorer avec beaucoup d'appétit, mais tout en se résignant à savoir qu'on ne pourra pas faire grand-chose pour en changer le cours.
Sylvain Tesson, son livre « S'abandonner à vivre » est paru chez Gallimard. Parmi les grands auteurs classiques, le livre posthume de Romain Gary, « Le sens de ma vie », est un condensé d'entretiens qu'il a donné à Radio-Canada. Un succès de librairie en ce moment. Et puis, l'éternel Jean d'Ormesson vous accompagne encore, évidemment, pour les beaux jours à venir, soit avec son tout dernier, comme un chant d'espérance, soit avec son avant-dernier, Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit, à l'occasion duquel nous avions ensemble parlé de la mort.
Vous savez, vieillir est le seul moyen de ne pas mourir. Et en même temps, je ne m'occupe pas beaucoup de la mort. Vous savez, je suis plutôt un partisan de Spinoza, la philosophie, et une méditation sur la vie plutôt que sur la mort. Mais il est vrai que la mort fait aussi partie de la vie. Vous savez pourquoi nous mourons ? Nous mourons parce que nous vivons.
Dès qu'on naît, on avance vers la mort, hein, de toute façon.
Voilà, Heidegger le dit très bien, l'enfant qui naît est déjà assez vieux pour mourir.
C'est vrai.
Et évidemment, ce qui est triste, ce n'est pas les vieillards qui meurent. Ce qui est triste, c'est les enfants qui meurent.
Mais est-ce que votre maladie vous a fait penser davantage à la mort ?
Pas vraiment. J'ai toujours été optimiste. Mourir ne doit pas être très agréable, mais être mort doit être délicieux.
Qu'est-ce que vous imaginez derrière ?
Ah oui, on n'a plus rangé sa voiture, on n'a pas de chagrin d'amour, on n'a plus à payer ses dettes, on n'a plus à s'occuper de rien, ouais. Quel délice !
Et vous croyez à ces paradis blancs, ces choses un peu lumineuses dont tout le monde parle ?
Non, je crois plutôt à ce que disait François Mitterrand, je crois aux forces de l'esprit.
Jean d'Ormesson, votre dernier livre est aussi délicieux que les précédents. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit, chez Robert Laffont. D'abord, racontez-nous ce titre qui vient d'Aragon.
Naturellement, vous savez, j'ai une grande admiration pour Aragon. Je crois qu'Aragon est non seulement un grand écrivain, mais vraiment, je crois qu'il est de la lignée des Ronsard, des Racine, des Chateaubriand, des Hugo. Ce qu'il y a de merveilleux chez Aragon, c'est qu'il est passé par toutes les formes de l'opposition. Il a été surréaliste, il a été communiste, et vous savez ce qu'il est maintenant ? Un grand classique. Ça, c'est extraordinairement français.
Mais vous êtes de gauche, alors ?
Pas du tout. Pas du tout, mais ce que j'aime, c'est la littérature. Et je mets la littérature très au-dessus de la politique. J'ai aimé Aragon et j'ai aimé Morand.
Alors, vous ne m'avez pas raconté le titre, hein, parce que « Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit », c'est la suite d'un double vers dans le premier. Et c'est une chose étrange à la fin que le monde que vous avez écrit en 2010.
Mais oui, il y a dans mon dernier livre, il y a un « en » qui est en
l'air. Sans en avoir tout dit.
Sans en avoir tout dit.
Est-ce que ça veut dire que quand vous aviez écrit le premier, en 2010, c'est une chose étrange à la fin que le monde, vous saviez déjà que vous écririez le deuxième « Je m'en irai sans en avoir tout dit »
Eh bien, je dirais obscurément oui. Et peut-être qu'en écrivant le deuxième, je sais obscurément qu'il y en aura un troisième.
Et le dernier qui vient de paraître comme un chant d'espérance est sorti, non pas chez Gallimard, mais chez sa fille Héloïse d'Ormesson. Donc, ce n'est peut-être pas la suite des précédents. Un nouveau à suivre, sans doute, chez Jean d'Ormesson, qui est inlassablement écrivain éternel. Certains dictionnaires amoureux se lisent comme des romans et s'ils vous ont paru un peu gros cette année, eh bien emportez-les pour vos après-midi de détente. Ils se lisent comme des romans, que ce soit celui de La Bretagne, signé Yann Kefelec, celui de La Résistance, écrit par Gilles Perrault, tous mes invités durant cette année, ou encore celui sur la Loire, qui est L'abécédaire de vie de Daniel Salnave. Son auteur, elle s'en explique.
Ben oui, parce que j'ai l'impression que j'ai tout appris au bord de la Loire, pour plusieurs raisons. Parce que j'ai l'impression que c'est quand on est enfant qu'on apprend tout. On l'apprend à travers les mots, à travers ce qu'on entend, mais à travers ce qu'on vit, à travers ce qu'on sent. Les paysages, les odeurs. Et puis je suis née dans une école aussi. Donc j'ai, à travers mes parents, ma mère était mon institutrice, j'ai appris toute cette... pas forcément des choses très savantes, mais des choses simples, agréables, heureuses,
donc
vivantes.
La Loire est formidablement importante pour vous, mais oui, aussi pour la France. C'est quand même le pays des rois, des châteaux, des écrivains.
C'est
le fleuve nourricier de la France.
C'est le fleuve nourricier de la France. L'histoire de la France s'est constituée tout le long. D'abord, elle-même, c'est formidable, parce qu'elle-même, son parcours ressemble à un parcours de la vie. Au début, c'est un petit fleuve, forcément, comme tous les fleuves. Mais elle traverse des rochers, elle doit se battre, c'est une adolescente ou un adolescent un peu frondeur. Et puis, petit à petit, sa vie prend de l'ampleur, prend de la largeur. On arrive, et tout d'un coup, elle décide de tourner à gauche. Pourquoi elle ne va pas tout droit? Elle aurait pu aller tout droit. Elle serait allée se jeter du côté de la Seine. Non, elle tourne à gauche. Et là, elle tourne et elle entre dans cette vallée magnifique, qui est la vallée des Rois, et elle nous mène jusqu'en Bretagne, jusqu'à un estuaire qui est extraordinaire.
Qu'avez-vous découvert sur la Loire qu'on ne sache déjà en écrivant ce livre ?
Alors, c'est très curieux, parce qu'au fond, ce que j'ai découvert, c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que réellement, hors toute perspective nationaliste étroite, pas du tout, c'est pas dans cet esprit que je l'ai écrit, loin de là, mais toute notre histoire s'est constituée le long de ce fleuve. Depuis la conquête romaine, jusqu'à l'occupation allemande, la destruction des ponts, en passant par la guerre de Cent Ans, la guerre de Vendée, les guerres de religion. C'est pour ça que c'est un fleuve, c'est un long fleuve, pas tranquille du tout. C'est un long fleuve très, très violent, d'abord parce qu'elle est sujette à des crues extrêmement dangereuses, et puis aussi elle a traversé toute notre histoire et elle l'a nourrie, oui, elle l'a nourrie, vraiment.
Dictionnaire Amoureux de la Loire, paru chez Plon, signé Daniel Salnave. Restez avec nous à la rencontre des écrivains de votre été. Nous parlerons tout à l'heure du Liban notamment, et vous entendrez l'écrivain américain Douglas Kennedy, et puis également Maïlys de Carangal, qui a cartonné cette année avec son livre « Réparer les vivants ». Ce sera après le journal à 19h15.